RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Homme, où est ta force? C'est l'intitulé du dernier numéro de la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées, dont nous sommes partenaires ce matin dans Je pense donc j'agis. Un numéro consacré aux hommes concernés par le handicap et de la façon dont ils construisent leur vie avec leur vulnérabilité dans une société où l'image de la virilité est vive. Alors la perception de la virilité, c'est un long débat avec des normes et des codes souvent rigides qui définissent ce qui est considéré comme masculin. Une conception assez traditionnelle qui met l'accent sur la force physique, sur l'indépendance et la capacité à subvenir à ses propres besoins. Et l'homme handicapé dans tout ça, parlons-en. Que viennent révéler ces hommes touchés dans leur autonomie? Comment leur identité est-elle façonnée par ces attentes sociales en matière de masculinité, tout en étant influencée par leur propre expérience de handicap? Parler des hommes en situation de handicap, c'est aussi mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés dans leur quête d'acceptation de soi et d'intégration sociale. Voilà, c'est le programme ce matin dont Je pense donc j'agis. On va en parler avec nos invités. Soyez les bienvenus. En direct avec vos témoignages, vous êtes un homme, vous êtes en situation de handicap physique ou mental. Comment le vivez-vous ce handicap? Est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose dans votre vie d'homme? Quel regard on porte sur vous? Est-ce que vous pensez qu'il est différent? Je vous attends au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 10h, trois invités. Je commence avec vous, Marilyn Chaumont. Bonjour Marilyn.
Bonjour Melchior.
Bienvenue sur RCF et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Vous êtes la rédactrice en chef de la revue Ombre et Lumière de l'OCH avec ce dossier, ce numéro intitulé « Homme, où est ta force ?». Il fait suite d'ailleurs à une enquête sur la femme et le handicap. Et dans ce dossier, vous donnez la parole aux hommes confrontés au handicap. Pourquoi ce choix? Pourquoi cet angle particulier?
Oui, c'est un angle qui d'emblée n'est pas forcément ne vient pas forcément naturellement d'interroger d'une part les femmes et de l'autre les hommes. Même certains hommes au départ nous disaient mais en quoi est-ce que ma perception de mon handicap ou changerait de celui d'une femme qui est confrontée aux mêmes limitations. Mais on a eu après effectivement avoir consacré un précédent dossier aux femmes, on a voulu un peu creuser avec cette question du parfois certains hommes qu'on a interrogés. Donc on est allé vraiment frapper à la porte de d'hommes très différents qui vivent qui sont plus ou moins jeunes, qui vivent des situations de vie différentes. Certains sont à Simon de Sirène avec des handicaps très très importants. D'autres ont eu un accident qui fait que leur vie a été un peu arrêtée net et justement leur manière de vivre leur corps a dû être radicalement transformée. Oui. Et donc beaucoup nous ont dit aussi, notamment à l'adolescence, quelle image ils avaient de l'homme un peu idéal, qui a de l'assurance, qui peut se débrouiller, qui peut atteindre des objectifs. Et surtout avec cette difficile acceptation du manque d'autonomie, notamment. Mmh. Et puis par rapport à ce que la société renvoie de l'image d'un homme, même si on essaie de se débarrasser de certains stéréotypes.
C'est ce qu'on a dit dans l'introduction.
Malgré tout, ceci demeure notamment celui d'une forme de performance qui est liée à des capacités mises à leur maximum. Donc ces hommes nous révèlent beaucoup de choses, notamment ce que signifie la force, qui est loin d'être uniquement la force physique et qui est bien au-delà. Donc, merci de nous accueillir en tout cas sur ce plateau. Et vous pouvez aussi retrouver ce dossier dans Ombre et Lumière du mois de mars.
Merci beaucoup, Marilyn, d'être avec nous pendant 2 heures. Avec nous aussi, Pierre Ancet. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur en philosophie des sciences. Vous co-dirigez le pôle éthique et vulnérabilité du LIR3S. C'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche société, sensibilité, soins. Et vous êtes aussi le directeur de l'université pour tous de Bourgogne, qu'on appelle l'UTB. Pourquoi vous êtes intéressé, Pierre Ancet, à la vulnérabilité et aux hommes également, confrontés au handicap? Pourquoi c'est un sujet qui revient beaucoup dans tout ce que vous avez pu étudier?
Pour moi, ça vient d'une collaboration qui a été extrêmement importante, à la fois du point de vue de la recherche, mais du point de vue de ma propre vie, avec un homme qui était entièrement paralysé, qui est né avec une amyotrophie spinale infantile, quelque chose qui ressemble donc à la myopathie qu'on voit souvent au moment du Téléthon. Mmh. Et cet homme avait une vraie force intérieure qu'il arrivait à manifester. Une virilité au sens où il avait une très grande détermination. Et de fait, il plaisait beaucoup aux femmes alors qu'il était entièrement paralysé, sous respirateur. Cet homme, il s'agit de Marcel Nuss, avec lequel j'ai écrit plusieurs livres, des articles, on a fait des interventions ensemble. Et cela m'a beaucoup frappé par rapport à la notion de virilité à laquelle Marilyn faisait allusion. Oui. Justement, une question liée à la force physique, musculaire. Ben voilà un homme qui n'avait pas de muscles. Quelqu'un qui semblait ne pas pouvoir assumer le rôle de chef de famille, entre guillemets, et qui pourtant a eu des enfants et a manifesté de l'autorité à l'égard de ses enfants. Quelqu'un qui semblait ne pas être capable de performance et qui pourtant, dans le champ intellectuel, dans le champ de la formation, a pu le montrer. Y compris dans le champ de la sexualité, où on imagine qu'un homme handicapé ne peut pas avoir de rôle actif dans la sexualité. Mais pourquoi faudrait-il d'ailleurs qu'il ait toujours ce même rôle actif que l'on imagine? Vous voyez que même la sexualité, qui semble quelque chose de très spontané, est en fait aussi liée à des représentations sociales. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui m'a fait réfléchir, bien sûr, sur ma propre masculinité, sur les degrés de masculinité que l'on peut penser, qui peuvent être hétérosexuels, homosexuels, et entre les deux, il y a plein de nuances possibles. On peut être un homme hétérosexuel et ne pas revendiquer une sorte de virilité caractéristique, hégémonique, comme on le dit aujourd'hui, avec quantité de stéréotypes dans l'attitude, la voix forte, le fait d'interrompre les autres, en particulier les femmes, le fait de s'imposer partout. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui, heureusement, est battu en brèche aujourd'hui. Mmh. Et puis, de la même façon que vous avez des masculinités hétéro ou homo, vous avez des masculinités valides et handies. Et les masculinités handies, les masculinités de personnes en situation de handicap, sont elles aussi très variées. Et elles peuvent prendre des formes qui montrent que l'homme est tout à fait capable d'assumer un rôle qu'on aurait tendance à lui retirer du fait de son handicap.
Ah ben c'est une belle entrée en matière, comme on dit, Pierre Ancet. Merci beaucoup de nous accompagner dans cette première partie. Enfin, je vous présente notre troisième invité. C'est vous, François Hugues. Bonjour, François.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin. Vous avez 59 ans et vous racontez dans le dossier de la revue Ombre et Lumière comment votre vie a basculé. Je vais commencer par lire vos mots parce que ce sont des mots très touchants. C'était une belle journée ensoleillée, une des premières où l'on retrouvait la liberté après le confinement. François Hugues, que s'est-il passé ce 20 mai 2020 ?
Eh bien, ce 20 mai 2020... à un jour près, je crois que c'était le jour de l'Ascension, tout un symbole pour moi, qui suis montagnard de formation. Eh bien, écoutez, tout simplement, une chaîne a entravé mon passage, je ne l'ai pas bien vu, et je suis passé au-dessus de mon vélo, la tête a frappé, donc mes cervicales, ce qu'on appelle C2 et C3, ont écrasé ma moelle, et je suis resté par terre, mais tout cela... je ne le savais pas avant que l'hôpital me le révèle.
Vous l'avez su au bout de combien de temps ?
Je l'ai su au bout de 2-3 jours, sans avoir la moindre idée, sans avoir la même idée de me dire « tu es tétraplégique, probablement à vie ». Ça, je l'ai su que réellement, même 2 mois après, dans mon chambre d'hôpital, ils m'ont dit entre les lignes, mais sans jamais me le dire. Donc c'est après où je me suis dit, bon, eh ben, pour l'instant, c'est terminé pour toi. Il va falloir faire autrement.
Donc tétraplégique, dépendant également à 90%. Quand on lit votre témoignage dans la revue Ombre et Lumière, on se rend compte que vous n'avez pas forcément été en colère. Alors vous dites que... vous avez pleuré, ça a été un choc d'apprendre ça. Par contre, vous n'avez pas ressenti de colère ou de révolte non plus, François Hugues ?
Non. Déjà, pas de révolte pour la personne qui avait laissé sa chaîne en travers du chemin. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas eu de colère, peut-être parce que je n'étais pas encore confronté à toute la réalité du handicap dans la vie hors de l'hôpital. Et c'est vrai, je n'ai pas eu de colère, je n'ai pas eu de. J'ai repris ça, vous savez, un petit peu comme en montagne, quand vous prenez une petite avalanche de neige ou une petite coulée de neige dans le cou, vous êtes un peu assommé, vous dites, je prends 5 minutes de respiration et on repart en avant et on remet les pieds, un pied devant et on avance. On ne s'arrête pas. Si on s'arrête, c'est pour se reposer, mais pas pour baisser les bras.
Pierre, on sait comment vous réagissez à cette force qu'on entend dans le témoignage de François?
Je trouve très important de s'appuyer effectivement sur ce que l'on a pu vivre auparavant. Comme le dit François à l'instant, il s'est appuyé sur son expérience en montagne, dans laquelle il faut de toute façon, quoi qu'on ait à faire, continuer, monter, marcher, on ne s'arrête pas. Et ce « on ne s'arrête pas », on peut effectivement le transposer dans d'autres expériences de vie, des expériences de vie qui sont parfois des montagnes à franchir. Effectivement, on a, pour les personnes qui ont un handicap acquis, comme François qui vient de nous parler à l'instant, une expérience qui est complètement différente du fait de naître avec un handicap. Parce que quand on est né avec le handicap, on s'est construit avec lui. Alors que quand le handicap est acquis, on a eu une existence ordinaire, et puis à un moment, une rupture radicale de la continuité de la vie, de ce qui était une continuité identitaire qu'on pensait être susceptible de changer, bien sûr, avec le vieillissement, mais de changer lentement. Et là, c'est un changement brutal, radical, de statut. On ne vous considère plus tout à fait de la même façon, notamment quand vous êtes en fauteuil, ne serait-ce que parce que les autres baissent les yeux pour vous regarder et que vous les regardez vous du dessous. On ne vous considère plus de la même façon dans vos aptitudes professionnelles. On considère qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, y compris dans le champ familial. Alors qu'en réalité, l'important lorsqu'on se retrouve face à cette nouvelle vie, parce qu'on peut parler de nouvelle vie, beaucoup de
Oui.
personnes parlent d'une mort et d'une renaissance. Eh bien, lorsqu'on se trouve dans cette nouvelle vie, on doit s'appuyer sur ses propres valeurs, sur ce qui a été, sur les expériences de vie déjà difficiles qui ont permis de traverser des difficultés, et sur les expériences de vie joyeuses qui peuvent être retrouvées. Cette joie, évidemment, elle ne revient pas tout de suite, hein. On ne pourrait pas parler de tout cela à quelqu'un qui viendrait d'avoir un accident. Ça serait vraiment contre-performant. Il faudrait absolument l'éviter. Mais parmi les phases de deuil que vous citiez tout à l'heure, comme la colère, la révolte, on peut citer aussi au tout début le déni. Non, je ne m'aperçois pas de ce qui m'est arrivé. On peut citer la dépression, bien sûr. Le marchandage aussi. Je donnerais tout pour retrouver ma vie d'avant. Eh bien, la dernière phase, ces phases classiques du deuil se succèdent dans un ordre souvent différent ou peuvent ne pas se produire pour certaines personnes, comme l'a dit tout à l'heure François à propos de la colère. Eh bien, la dernière phase, de toute façon, ce sera toujours l'acceptation, le moment où j'arrive à passer outre par rapport à toutes ces difficultés que j'ai ressenties à l'intérieur de moi-même pour aller vers cette nouvelle vie. Et dans cette phase d'acceptation, c'est là que les personnes disent être capables de retrouver le plaisir qu'elles ont connu auparavant, voire de découvrir, et ça c'est assez paradoxal, de nouvelles formes de plaisir, de nouvelles manières d'exister.
Et ça, on va en discuter avec le témoignage de François. Vous dites, Pierre Ancet, mort et renaissance. Ça me fait penser, Marilyn Chaumont, au témoignage de Fouad Hassoun, qu'on entendra dans la seconde partie de Je pense donc j'agis, qui est devenu aveugle à l'âge de 17 ans, très très jeune, après une explosion. Il nous expliquera ça. C'était un attentat au Liban. Et il dit, il a fallu du temps pour passer à un système de résurrection. Là aussi, c'est extrêmement fort comme terme. C'est ce qui vous a frappé, vous, dans les témoignages que vous avez recueillis, Marilyn, dans le dossier?
Ce qui était frappant, c'est aussi ce qui était à l'intérieur de l'épreuve, ce qui finalement arrivait à se déployer, c'est-à-dire on voit par exemple François qui est avec nous, j'ai été touchée aussi par les paroles de sa femme qui dit « François est resté debout, il a aujourd'hui une force incroyable qui m'impressionne ». Et donc c'est cette force, cette privation finalement de force physique qui entraîne le déploiement d'une force intérieure, d'une ténacité, d'une forme de courage qui enseigne tout autre homme en particulièrement. Et donc pour vous citiez Fouad Hassoun, effectivement, il a vécu ces différentes étapes de colère, de révolte. Il en voulait à la terre entière.
Oui.
Et lui, il a vécu, voilà, une expérience assez singulière aussi de pardon qu'il a libéré. Mais au-delà de ça, il raconte aussi comment, à travers cette tout ce passage, hein, quand il parle de résurrection, ben on peut penser aussi avant à la passion, à l'épreuve de devoir accepter d'être un autre, de passer par une souffrance intérieure. Lui, ce qui est intéressant, c'est que il explique à quel point il était dans une forme d'agressivité et que petit à petit, il a réussi à acquérir une maîtrise de lui-même, peut-être bien différemment que s'il n'avait pas été atteint dans ses capacités.
Et une forme de
et en ce sens, ouais, voilà, il y a une forme
de paix intérieure,
non seulement de résurrection, ouais, mais de une forme de voilà, de permanence, d'assurance, d'être là où il doit être et de malgré la limite, d'être maître de lui-même et d'enseigner une forme de paix, de stabilité, de profondeur de vie qui est un exemple, voilà, pour beaucoup.
François Hugues, c'est vraiment en rentrant chez vous après votre accident que vous avez mesuré la lourdeur du handicap. Pour vous, il y a eu vraiment un avant et un après. Ça a été comme un révélateur.
Le retour à la maison m'a confronté à toutes les réalités d'une vie entre guillemets ordinaire. C'est très simple, c'est la gestion du personnel soignant, c'est la gestion de tous les dossiers administratifs liés à mon handicap que je partage avec mon épouse. Et là, vous mesurez aussi la confrontation avec la société, avec vos amis, avec le regard, en effet, avec vos journées qui sont bien remplies, où vous traitez un nombre de tâches avec votre épouse qui est, ça peut étonner les gens qui sont sur leurs deux jambes, qui est assez, assez important et qui vous prend quasiment toute la journée. Voyez-vous.
Est-ce que ça a changé quelque chose d'après vous dans l'homme que vous étiez avant cet accident?
Comment vous dire? Bien évidemment, question... mobilité mécanique, il n'y a plus rien ou presque, à part mes épaules et ma tête, le reste est à l'état de jachère. Donc bien évidemment, ça vous change un homme de ne plus avoir vos membres, ça vous change un homme, mais bien évidemment que ça a tout changé dans ma vie, mais je ne sais pas comment vous répondre. Peut-être que vous reviendrez peut-être sur cette question dans quelques minutes.
Oui, parce que surtout que vous dites dans le dossier, dans votre témoignage, je suis comme un enfant pas autonome ou un vieux incapable de se gérer lui-même. Pierre Ancet, je crois que ça, ce sont des choses que vous avez pu entendre dans vos études.
Oui, bien sûr. C'est ce que dit, par exemple, Jean-Luc Simon dans son livre « Vivre après l'accident ». Lui avait eu un accident en randonnée alors qu'il était jeune. Il était en études pour devenir infirmier en psychiatrie. Et grâce à cette qualification, il décrit très bien, d'ailleurs, tout ce que, psychologiquement, le fait de devenir tétraplégique lui a imposé. Par exemple, le fait, justement, de voir des personnes le changer comme un enfant. C'est une position qui lui a rappelé une situation extrêmement infantile. Ça a été difficile. Lui ne parle pas d'avoir vieilli plus vite, mais il parle par contre de toutes les régressions que l'on a l'impression de vivre avec ses parents qui viennent pour s'occuper de lui, avec sa position qui n'est plus la même puisque désormais il doit composer avec les autres en permanence. Et cette dépendance, eh bien, on l'a acquise pour devenir adulte. La plupart d'entre nous avons acquis une certaine forme d'indépendance. Cependant, j'insiste à propos de cette notion de dépendance et d'indépendance sur le fait qu'il ne faudrait pas se limiter à la dépendance physique.
Oui.
François le disait, il parlait de sa dépendance physique tout à l'heure, et évidemment, elle est très importante, mais une personne qui conserve une indépendance de choix, une indépendance de pensée, peut la manifester. Et de la même façon, on pourrait dire, il y a quantité de personnes qui ont toutes leurs capacités physiques dans la société, mais qui ne sont pas du tout indépendantes d'un point de vue psychique. Elles dépendent beaucoup trop des autres, elles sont tout le temps en attente des autres, elles ne font que attendre ce qui va être proposé. Et donc, celles-ci, on n'en parle pas comme de personnes dépendantes. On réserve ce terme de dépendance pour la dépendance physique. Il ne faut pas s'y laisser prendre. En réalité, il y a de très nombreuses formes de dépendance et on peut manifester sa capacité d'indépendance alors même qu'on ne peut pas bouger puisque, par exemple, aujourd'hui, si vous n'avez pas l'usage de vos mains, vous pouvez dicter à un ordinateur des textes, vous pouvez écrire, vous pouvez manifester votre compétence par des moyens techniques qui n'existaient pas auparavant.
Marilyn Chaumont, vous vouliez réagir, je crois.
Oui, moi j'avais été frappée justement dans ce témoignage de François Hugues qui est avec nous. D'une part, il y a eu des réactions sur le titre qu'on avait donné à ce témoignage qui était « Dépendant mais pleinement homme ». Alors certaines personnes ont réagi en disant « Mais pourquoi avez-vous écrit le « mais pleinement homme » ?» On est forcément pleinement homme, donc il fallait mettre un « et ». Dépendant et pleinement oui. homme. Ça montre un petit peu le nœud de la question. Mais j'avais repris, on avait repris ces mots de François et il y avait quelque chose qu'il avait dit qui m'avait beaucoup frappé. Il disait, dans mon état, pour demeurer un homme, il ne faut pas se décourager, être patient, se faire aider à la juste mesure et se battre pour conserver le peu d'autonomie que l'on peut avoir. Et c'est ainsi que François disait qu'il pouvait garder sa place dans le cercle familial, amical et dans la société. Et il pourra nous le redire, François, sans doute. Mais voilà, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était sa manière de garder son rôle, notamment de père, d'homme à côté de sa femme, à sa juste place. Oui. Mais il fallait quand même se battre pour conserver, voire déployer cette forme d'autonomie, d'indépendance dont parlait Pierre Ancé, parce qu'elle elle n'est pas uniquement physique et elle peut vraiment se déployer. Donc peut-être François, vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, François, vous êtes battu, mais c'était vital pour vous.
Alors, je reprends un petit peu les deux interventions de Pierre et Madame Chaumont. Alors en effet, quand vous avez un système, vous enlevez un élément, tout se rééquilibre en fonction de l'élément absent. Étant donné que mon corps n'est plus agissant, tout s'est reporté en effet sur ma pensée. Et ma pensée, ma vie n'est que réflexion, attente et frustration. J'ai résumé de manière caricaturale, mais c'est cela. Et en effet, tout passe par la pensée. Et comment vous dire, mon état d'homme ne se reporte que sur ma pensée. Et à partir de là, j'ai mon autonomie en effet au travers de l'utilisation des nouvelles technologies. Et c'est par là que j'arrive à m'exprimer, que j'arrive à être ce que j'essaie d'être par la parole. Je n'ai que la parole pour vivre, entre guillemets, et pour communiquer et trouver ma place d'homme dans la société.
C'est intéressant, je trouve, Pierre Ancel, d'entendre ce que dit François Hugues, de trouver sa place d'homme, alors que finalement, comme vous l'avez dit, Marilyn, ce mail n'était pas forcément à rajouter. C'est un homme, de toute façon, il a sa place, Pierre Ancel.
Oui, absolument. Mais j'étais très frappé par ce que disait à l'instant François Hugues sur le fait qu'il n'a que la parole pour vivre. Mais en effet, beaucoup d'hommes, beaucoup d'êtres humains ont essentiellement la parole pour vivre. Finalement, être capable d'indépendance physique, mais sans avoir la parole, sans avoir la pensée, c'est une difficulté bien plus grande quand on est humain. Les humains se définissent essentiellement par cet intermédiaire. Et donc, on a retiré une partie, mais pas l'essentiel de ce que peut être un humain, à condition, bien entendu, de ne pas déjuger les personnes qui n'ont pas de capacité intellectuelle. Ce n'est pas mon propos ici, mais c'est l'idée que par la parole et par l'intellection, on peut manifester ce qui caractérise tout être humain, l'excès, la possibilité d'excéder un statut, une limitation qui vient de l'extérieur. Nous pouvons toujours faire davantage que ce que l'on pensait pour nous ou que soi-même, on se pensait être incapable de faire. Et cette capacité proprement humaine d'excéder les conditions dans lesquelles on vit, eh bien, on peut la rencontrer dans des situations qui paraissent
assez peu désirable, difficile, extrême. C'est quand même très particulier un être humain, parce que des êtres humains qui sont en bonne santé vont désirer davantage, toujours davantage, être assez extraordinaire, avoir quelque chose de spécial. Et puis dès que vous êtes en situation de handicap ou atteint par une maladie chronique, ben là vous désirez la normalité, être le plus normal possible, revenir à ce qui était avant. Finalement, les êtres humains sont toujours emportés par leurs désirs et ils se rendent compte que quelle que soit leur situation, ils sont pris au piège des mêmes tendances, à la fois de la tendance à vouloir toujours plus que ce qu'ils ont, et puis de la tendance à se transformer eux-mêmes afin d'être davantage, ce qui est très différent que le fait d'avoir plus. Être davantage, être en excès, c'est quelque chose qui est proprement humain dans la façon dont nous vivons. Et je suis très sensible à tout cela.
Et on va continuer d'en parler dans un instant. Le temps de marquer une petite pause. On se retrouve, Marilyn Chaumont, Pierre Ancet, François Hugues. Après ces quelques minutes, je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour participer. Si vous êtes un homme et que vous êtes en situation de handicap physique ou mental, comment le vivez-vous, ce handicap? Est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose dans votre vie, votre situation d'homme? Est-ce que le regard qu'on porte sur vous est différent? 04 72 38 20 23 pour témoigner. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30, une émission en partenariat ce matin avec le dernier numéro de la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées, intitulé « Homme, où est ta force ?» Un numéro consacré aux hommes concernés par le handicap et de la façon dont ils construisent leur vie avec leur vulnérabilité dans une société où l'image de la virilité est vive. Vous avez d'ailleurs la parole pour en témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois.
Il n'y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Il n'y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Il n'y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Il n'y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister. Chanter comme une résilience, une délivrance. Chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois. Tenir dans l'orage, je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une... J'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore. encore une fois pour trouver le courage.
Derrière le brouillard, c'était une chanson de Grand Corps Malade et de Louane pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos trois invités jusqu'à 10h, Pierre Ancet, je rappelle que vous êtes professeur en philosophie des sciences. Vous co-dirigez le pôle éthique et vulnérabilité du LIR3S. C'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche, société, sensibilité, soins. Vous êtes aussi directeur de l'Université pour tous de Bourgogne. François Hugues, vous êtes avec nous également dans cette émission. Vous avez 59 ans et vous témoignez dans la revue Ombre et Lumière de votre accident le 20 mai 2020 qui vous a rendu tétraplégique. Et enfin, Marilyn Chaumont, également avec nous, rédactrice en chef de la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées. Marilyn, je voulais qu'on parle un peu justement de la virilité, de la masculinité, parce que dans votre dossier, dans tous les témoignages et dans tout ce que vous dites depuis le début de cette émission, on entend souvent les termes, les codes de l'homme classique, l'homme idéal, la masculinité. Ça vous a interrogé?
Oui, beaucoup. Et évidemment, ce qui était intéressant pour nous, c'est de aussi d'aller voir auprès des hommes justement valides. Et on est allé interroger un jeune homme qui passe beaucoup de temps, qui a une amitié, une complicité forte avec un homme beaucoup plus limité que lui, un homme touché par un handicap et qui a besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Et donc ce jeune homme, voilà, valide d'une trentaine d'années, on lui a posé la question, voilà, pour vous, est-ce qu'il y a un petit peu une recherche d'une certaine forme de virilité? Comment est-ce que vous, vers quoi est-ce que vous tendez? Voilà, donc peut-être aussi dans l'image que vous avez de l'homme. Et effectivement, il racontait avec beaucoup de justesse que dans son imaginaire, l'homme masculin, voilà, il était censé, voilà, être capable de faire quelque chose seul, et que s'il l'était pas, on pouvait ne pas croire en sa compétence, voilà, il pouvait se sentir émasculé, de ne pas assumer, de ne pas acquérir certaines compétences. Mais son compagnonnage, voilà, avec un homme plus âgé que lui, Jacques, paraplégique, lui a fait comprendre que les codes qu'il avait petit à petit ont été passés un peu au tamis d'une forme d'authenticité. Et alors je cite parce qu'il a dit quelque chose d'assez fort. Il dit, voilà, moi, l'homme qui est tenté par l'égocentrisme, le repli, il n'y a rien de ça chez Jacques, donc cet homme handicapé. Et moi, j'ai interrogé profondément les codes de la vérité que j'avais pour moi-même, avec mes amis, dans mes soirées, etc. Et il dit souvent, quand on dit « je fais le meilleur métier, je suis un beau parleur, je parle fort, je parle haut », tout à l'heure, Pierre Ancet parlait de couper la parole.
Absolument.
Voilà, quelque chose de l'homme qui s'assume. Et lui, donc, exprime tous ces codes de l'homme classique, je pense les avoir perdus au contact de Jacques. Mais j'ai gagné ceux de l'homme vrai. J'en ai fini avec les affaires de compétences. Jacques m'a montré que l'être prévaut sur le faire. Il n'est pas si différent de moi. Et donc voilà, il y a cette. C'est intéressant de confronter, voilà, les attentes, les projections d'un jeune homme, voilà, dans la société, qui finalement, en regardant, en échangeant, créant une amitié profonde avec un homme qui est peut-être pas l'idéal masculin qu'on peut représenter dans une. Dans une société tentée par la performance, une forme de beauté particulière, de force particulière. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez fort de sentir comment la virilité était réinterrogée et révélée d'une certaine manière dans son authenticité par les hommes touchés par un handicap.
François Hugues, vous en témoignez d'ailleurs hein, dans le dossier « Homme, où est ta force ?» Et je vais vous citer une fois de plus, car c'est très inspirant. « À la fin d'un dîner, tout le monde s'embrasse pour se dire au revoir. Rares sont les femmes qui se penchent vers moi. Alors je me sens très seul, j'ai l'impression d'être repoussant, de ne pas être attirant, de ne pas être l'homme que je suis. » François, pourquoi vous avez écrit ça? Parce que vous avez l'impression que depuis que vous êtes en fauteuil, depuis que vous avez eu votre accident qui vous a donc rendu tétraplégique, les regards sont différents.
Bien évidemment que les regards sont différents. Tout dépend des personnes. Vous avez des personnes qui ont peur de mon handicap. Vous avez les personnes qui ne connaissent pas mon handicap et les personnes avec qui le handicap les rend très à l'aise. Et je suis, je pense que peu de personnes sont à l'aise avec mon handicap. Et donc à partir du moment où quelqu'un ne vient pas vers vous, vous vous remettez en question en vous disant « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi qui n'attire pas cette personne vers moi ?»
J'aimerais qu'on écoute Catherine au 04 72 38 20 23. Bonjour Catherine.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, donc moi je vais un petit peu à l'encontre de tous les témoignages parce que je suis accompagnante, amie d'un monsieur de 70 ans maintenant qui est devenu aveugle à la suite d'une rétinite pigmentaire depuis l'âge de 40 ans et qui lui justement refuse ce handicap et n'accepte que très difficilement les aides qui pourraient lui être proposées pour améliorer sa vie. La canne blanche, ça a été très compliqué. L'aide ménagère, il n'en avait pas besoin, il était capable de nettoyer son logement, alors que malheureusement, ça laisse un peu à désirer. Même pour son apparence vestimentaire, c'est un peu compliqué. Mais il refuse totalement. Il n'est pas dans sa tête, il n'est pas handicapé.
Ah oui. Voilà. Eh ben, écoutez Catherine, merci beaucoup d'avoir témoigné. Ça rejoint totalement ce que vous disiez, Pierre Ancet, tout à l'heure. Il y a ceux qui acceptent et sont jugés. Il y a ceux aussi qui sont dans le déni. Donc il y a une forme de violence aussi là-dedans.
Et oui, bien sûr, parce qu'on se trouve tellement poussé en dehors de soi, mis hors de soi, sans parler vraiment de colère, hein, mais qu'il y a là la possibilité d'un déni, et tant qu'on est dans le déni, il n'y a pas d'acceptation, effectivement. Ce sont des phases qui ne peuvent pas cohabiter. Et c'est effectivement quelque chose de particulièrement difficile pour certaines personnes de se rendre compte vaguement, implicitement parfois, qu'elles ne peuvent plus. Et aussitôt, on ferme les yeux dessus. Alors que reconnaître sa vulnérabilité, c'est quelque chose de tout à fait essentiel pour tout le monde d'ailleurs. Si je reprends ce que disait Marilyn tout à l'heure à propos de ce jeune homme qui avait fait la découverte de l'importance de la vulnérabilité avec ce monsieur qui l'accompagne. Au fond, est-ce qu'il existe des humains invulnérables ? Non. Ou alors j'aimerais bien en connaître, mais nous avons tous des vulnérabilités qui sont variées. Il y a des degrés de vulnérabilité, bien sûr. Je nie pas qu'il y ait des vulnérabilités beaucoup plus profondes que d'autres. Mais ce que nous révèlent les personnes qui se trouvent en situation de handicap, c'est cette expérience de la vulnérabilité que nous pouvons tous et toutes faire dans une société où, essentiellement, nous devrions compter sur la relation. Notre autonomie, elle est relationnelle. Elle naît du lien entre les êtres humains. C'est pour cela également que notre société ne devrait pas être fondée sur ce qui en impose, sur la force brute, mais au contraire sur les personnes qui sont capables de créer de la relation, de créer du lien. Et non pas un lien, bien sûr, qui enferme ou qui enserre, mais un lien qui permet de créer une continuité entre soi et l'autre. C'est ainsi qu'on peut considérer que nous sommes des êtres humains qui se relient les uns aux autres, qui ont cette capacité d'exister, non pas seulement pour eux-mêmes, mais au travers de ce qu'ils représentent. Et alors justement, si les autres me font sentir que mon handicap les gêne, les dérange, je ne représente plus la même chose.
C'est ce que disait François.
Oui, exactement, c'est ce que disait François tout à l'heure. Hein. Il disait « mon handicap fait peur à plusieurs personnes ». Alors pourquoi fait-il peur ? Comme s'il y avait une peur de la contagion. Mais on sait bien pourtant que ça ne s'attrape pas, c'est une peur qui est représentée plus qu'elle n'est su. Ça peut être une peur d'être révélé dans sa propre vulnérabilité. Ce que l'autre me renvoie, c'est qu'en fait je ne suis pas invulnérable, c'est que je peux aussi être blessé. Et peut-être que cela, ça fait peur. Et puis la peur, ça peut être aussi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment me rapporter à lui. Peut-être qu'il attend de moi de la commisération, de la pitié. Or, c'est tout le contraire. Ce que l'on attend, c'est une relation, comme l'a bien dit tout à l'heure François, ordinaire. Ben, on va dire au revoir comme on a dit au revoir à tous les autres dans la pièce. Donc, on n'attend absolument pas de la compassion, de la commisération. On attend de la fluidité dans les rapports humains. On attend de la continuité.
Marilyn Chaumont.
Oui, je suis frappée par les mots de Pierre Ancet quand il dit qu'il y a ce besoin de relation dans notre société qu'on occulte. Et finalement, beaucoup d'hommes qu'on a interrogés nous ont dit voilà leur difficulté, notamment plus jeune à l'adolescence, de ne vouloir avoir besoin de personne, d'essayer. On a aussi, j'ai réagi par rapport à ce que disait tout à l'heure cette auditrice au sujet d'un homme aveugle qui refusait toute aide. On en a plusieurs qui nous ont dit, ouais, à un moment donné, voilà, on se repliait, on voulait absolument pas avoir besoin des autres. Et donc finalement, c'était une double peine. Et finalement, avec le cheminement progressif, l'acceptation de l'aide et de l'entraide, ces hommes viennent révéler que en fait, cette capacité à laisser place à l'autre, voilà, à ce qu'il y ait une relation qui s'élargisse. Et justement, quand on parle de ces codes de virilité, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop s'avancer, mais peut-être qu'une femme, ne serait-ce que pour accoucher, a besoin naturellement de l'aide des autres et a une forme de peut-être, sans entrer dans des caricatures, mais une forme d'aisance relationnelle, peut-être aurait-elle davantage de facilité aussi à s'ouvrir aux autres de ses besoins. Et on voit donc que c'est un long cheminement difficile pour beaucoup d'hommes de se dire, mais en fait, j'ai vraiment besoin de l'autre. Et ce n'est pas ça qui va altérer ma dignité, altérer mon autonomie. Donc voilà, je trouve que c'est un enseignement de beaucoup d'hommes, et notamment du cheminement nécessaire pour accepter de faire, voilà, de faire entrer l'autre, de se faire vraiment aider, ce qui est un très à la fois douloureux, mais qui enseigne tout homme.
Oui.
Qui peut se penser qu'il se fait lui-même, il se fabrique lui-même, et voilà, avec cette, presque, cette notion de surhomme, voilà, on est vraiment homme quand on n'a pas besoin des autres, mais en fait, c'est tout l'inverse qui nous révèle.
François Hugues, vous parlez également beaucoup de votre épouse Anne-Sophie. Je vais vous lire une fois de plus. Quand je rentrais le soir du travail, Anne-Sophie aimait particulièrement que je la serre dans mes bras, mais ce n'est plus possible et c'est crucifiant pour nous deux. Et un petit peu plus loin, vous dites, elle a dû consentir plus que moi à d'énormes sacrifices. Qu'est-ce que votre handicap a changé dans votre vie intime, alors sans rentrer trop dans votre vie privée, hein, François Hugues, mais qu'est-ce que ça a changé quand même dans votre vie de couple et de famille ?
Ça a changé le simple fait que mon corps ne peut plus parler à ma femme. Mon corps, dans ses gestes les plus simples, ne peut plus parler à ma femme. C'est-à-dire, on en revient toujours à la pensée et à la parole, et dans une relation de couple, la pensée et la parole ne suffisent pas. Et je reprends un petit peu un sermon que j'ai entendu un jour, que l'on m'a passé d'ailleurs d'une personne d'OCH, quand il dit que le corps est le temple de l'esprit. Et je me dis que s'il n'y a pas le corps, il manque une case dans la vie d'un couple. Et donc, quand vous serrez votre femme dans vos bras, vous faites passer des messages. Vous faites passer des messages et elle vous renvoie aussi des messages, ne serait-ce que par les cinq sens, et en particulier le tactile. Et ça, comme vous dites, il y a une impasse et la pensée n'arrivera, je pense, pour l'instant, n'arrivera pas à remplacer le corps manquant.
Vous êtes aussi papa de deux garçons qui ont aujourd'hui 22 et 24 ans, hein, si je me trompe pas. Ce rôle de père, vous avez réussi à le maintenir. Et là aussi, c'était vital pour vous de rester dans cette position finalement d'époux et donc de père aussi.
Bien sûr. Déjà, mon rôle de père, je ne pouvais pas le transférer à mon épouse. Mon épouse est mère avant tout. Et c'était crucial parce que j'ai besoin d'exister dans la société, mais j'ai aussi besoin d'avoir ma place, surtout dans le cercle familial. Et à partir de là, j'ai aussi besoin par amour, peut-être par fierté, peut-être par orgueil, d'apporter et de transmettre encore à mes enfants un petit peu de ce que je faisais avant. Et tout ce qui est mécanique, tout ce qui est dans de l'activité, ben je ne peux le faire qu'au travers d'une personne, c'est-à-dire qu'en déléguant ce que je faisais avant.
Pierre Ancet, comment vous entendez ce témoignage de François sur son rôle de père et d'époux à la fois ?
Ah oui, j'étais très touché par ce que disait François, la nécessité ressentie par un père de transmettre à ses enfants. Pour moi, cher François, ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir essayer de transmettre malgré tout. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait la place qui est la vôtre. Et j'étais très sensible également à ce que vous disiez sur le fait que votre corps ne peut plus parler à votre femme, parce qu'effectivement, le corps, on a tendance à le réduire à un corps organique quand on parle de handicap. Mais le corps, c'est bien plus qu'un corps organique, c'est un corps tel qu'il est vécu du dedans par des personnes. Et c'est celui-là qui est important. C'est le corps dans sa dimension relationnelle. Celui qui peut être touché et qui peut toucher en retour. C'est celui qui va donner une certaine réassurance par l'intermédiaire du contact. Marcel Nuss, l'ami avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était atteint d'un handicap de naissance, disait qu'il avait souffert de n'avoir jamais pu prendre ses enfants dans ses bras. C'est ce qu'il aurait voulu faire. Alors ça paraît peu de choses par rapport à l'étendue de son handicap et des atteintes fonctionnelles. Mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Si on parle des atteintes fonctionnelles, ben évidemment, on voit le corps organique, mais lui parlait du corps dans sa dimension de relation, dans tout ce qu'il pouvait faire passer. Et on peut faire passer alors par son regard, par son sourire, par ce qui vient du cœur, ce qui vient de l'énergie intérieure, ce qu'on ne peut plus faire passer en s'approchant de l'autre, en lui tendant la main par exemple, ou en effleurant sa peau. Et c'est un travail de transformation effectivement des signaux qui émanent du corps, qui bien souvent est long, difficile, et comme les autres ne le perçoivent pas toujours, c'est un travail qui parfois est soumis à l'échec, ce qui rend des personnes en situation de handicap physique souvent très malheureuses, parce que c'est vivre l'échec face à la dimension la plus éminente de notre humanité, qui est encore une fois la dimension relationnelle.
Marilyn Chaumont, on peut lire dans la revue Ombre et Lumière ce témoignage de François, également de Fouad Hassoun qu'on a cité tout à l'heure et qu'on accueillera dans la seconde partie de Je pense donc j'agis. Mais tous les deux, ils évoquent leur foi et ce besoin d'aller se tourner peut-être vers l'au-delà ou en tout cas vers une force un peu supérieure. Parce que la force intérieure, on l'entend dans le témoignage de François, mais il y a eu ce besoin à un moment de se faire aider par le Seigneur, comme le dit François, hein, le Seigneur m'aide dans cette acceptation de l'homme que je suis devenu. Ça vous a marqué quand vous avez recueilli les témoignages, Marilyn?
Oui, on a senti aussi à quel point il y avait une forme de rocher, enfin voilà, une permanence finalement d'un Dieu qui est là, quoi qu'il arrive. On sent aussi, ben, notamment, ben, voilà, entre le handicap, s'il est acquis en cours de vie ou s'il est là depuis toujours, voilà, il y a aussi une forme de mort à soi-même. Il y a une forme de mort à soi-même, donc qui fait qu'il y a une épreuve aussi qui peut être une grande épreuve spirituelle et qui fait qu'on renaît différemment. Et souvent là, les personnes expriment leur besoin d'être appuyées par leur foi. Et donc, je repense aussi peut-être François, à votre épouse Anne-Sophie, qui disait que voilà, cet accident qui vous a changé était là aussi pour avait fait qu'il y avait une forme de conversion, de changement plus profond qui s'opérait, pas seulement le changement du quotidien, mais dans le cœur et dans l'esprit. Donc ça, on l'a senti assez fortement.
François Hugues, votre foi, est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce qu'elle s'est transformée depuis votre accident?
Je pense qu'en passant de l'être mécaniquement agile à un être qui n'est plus que de penser, je trouve que l'étape suivante, c'est de monter d'un cran au-dessus, c'est d'être un peu dans la surpensée, dans le spirituel, et de continuer à confier sa vie, à parler de sa vie d'handicapé au Seigneur. Et j'en parle, mais dans mes prières, je passe 10% pour prier pour moi, et le reste, je le fais pour ma famille et pour mes amis, parce que je me dis, eux, ils ont encore tout leur potentiel, et ils peuvent faire peut-être plus que moi. Moi, je fais le maximum, mais avec la pensée, on ne fait pas tout, et eux peuvent tellement plus, et souvent, je vais peut-être vous choquer, mais ils ont peut-être parfois plus de problèmes que moi. Plus de problèmes que moi. Moi, je sais que je ne bouge pas. Ma vie, c'est me faire aider, c'est penser. Mais ils ont beaucoup plus de... Quand quelqu'un est confronté à un cancer du cerveau à 65 ans, toute sa vie est une inconnue. Moi, je sais que ma vie, ça sera des aides régulières, des activités qui sont limitées. Donc tout ça est un petit peu figé. Eux sont tellement plus évolutifs que moi. Donc je prie beaucoup pour les autres et j'ai surtout développé la lecture de la parole. Tous les jours, avec mon épouse, nous disons la parole. Lorsque j'étais à l'hôpital, nous prions à distance en vidéo. J'ai beaucoup développé la parole. J'ai surtout découvert tout ce que je ne connaissais pas sur la parole et tout ce que la messe m'a apporté comme nécessité d'aller au-delà de la messe. Et que la messe, à mon avis, ne suffit pas pour développer sa foi et connaître bien d'autres passages de l'Évangile que ceux évoqués à la messe. Et j'ai découvert la vie de Jésus en parallèle de la série Chosen. J'ai découvert tout ce que Jésus et donc Dieu avaient fait pour les hommes sur son passage sur terre au travers des quatre évangélistes.
On arrive doucement à la fin de cette émission, ça passe extrêmement vite. Marilyn, vous vouliez réagir, je crois.
Oui, j'ai été marquée, François, par vos mots. Vous avez dit, voilà, je prie en partie pour moi, mais surtout pour les autres. C'est aussi quelque chose qui me touche dans ce que vous vivez, mais aussi chez d'autres hommes que nous avons interrogés dans Ombre et Lumière. C'est cette capacité à soutenir aussi, à soutenir l'épreuve, parce qu'en fait, la vie spirituelle ou la prière, elle ne gomme pas l'épreuve très forte du handicap. Elle n'occulte rien, elle n'occulte pas le réel, mais on voit aussi dans le christianisme qu'il y a un modèle de force qui se retrouve vraiment aussi dans la figure du Christ. Et ça, c'est intéressant de le souligner parce qu'en fait, la force, elle a deux dimensions. Elle a celle qui est d'aller à l'attaque, d'aller à l'affront, d'aller de l'avant. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est la capacité de supporter, de soutenir. Et cette force-là, celle qu'on retrouve, voilà, dans tous ces témoignages, dans tout ce qu'on, et notamment dans ces mots de François, c'est celle, voilà, de soutenir l'épreuve, mais aussi de soutenir les autres, voilà, d'endurer, de porter. Et en fait, cette force-là, elle est supérieure à tout autre type de force que parfois on pense retrouver chez l'homme.
Pierre Ancet.
Ah oui, tout à fait. Soutenir l'épreuve d'autrui, c'est très important. Et j'ajouterais que il ne faut pas supposer la foi chez autrui et ne pas lui imposer de l'extérieur, puisque lui dire vous partagez les souffrances du Christ quand quelqu'un n'est pas croyant, évidemment ça n'aura aucun sens. La foi porte celles et ceux qui l'ont. Et l'homme qui n'est pas croyant ne peut pas être aidé par ses paroles, même si on peut bien sûr prier pour lui. Il s'agit de réserver ses considérations pour celui qui a sa propre chapelle intérieure.
On a beaucoup parlé du terme virilité, du terme aussi masculinité dans cette émission. Pierre Ancet, et je pense que ça va bien finir, mais qu'est-ce que c'est la virilité en 2024?
C'est une virilité qui va se développer selon des modalités beaucoup plus variées, je pense, qu'il y a 30 ans. Les gens qui ont connu, comme moi, les années 80, 90, avaient certainement une vision beaucoup plus stéréotypée de la virilité, parce que celle-ci était présentée notamment dans les fictions à travers des personnages héroïques, des personnages qui se sortaient de toutes les situations par leur capacité. Aujourd'hui, il me semble que les scénarios de fiction sont beaucoup plus subtils, laissent beaucoup plus de femmes dans la place de celles qui prennent les décisions et laissent beaucoup plus d'hommes dans la place de ceux qui ont besoin des autres. Alors cette réflexion sur la virilité, elle existe aussi en théorie. Au Québec, dès les années 2000, on a commencé à travailler sur la virilité et sur ce que sont les hommes aujourd'hui. Mais vous voyez que la réflexion sur le handicap et ce qu'est un homme valide ou non valide nous permet aussi de reconsidérer la virilité dans son ensemble.
Et ben voilà, je pense que ça vient très bien conclure cette émission. Merci beaucoup Pierre Ancet d'avoir participé. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Université pour tous de Bourgogne. Vous êtes professeur en philosophie des sciences. Merci vraiment François Hugues également pour votre témoignage. On peut vous lire dans la revue Ombre et Lumière de l'Office chrétien des personnes handicapées. Un très très beau témoignage, très marquant. Marilyn Chaumont, merci, mais vous restez. Donc voilà, vous ne bougez pas pour la seconde partie de Je pense donc j'agis. On va parler de l'accompagnement des hommes confrontés au handicap. À tout de suite.